Charles Gave, bonjour.
Bonjour.
Alors, on refait là une première émission, un nouveau format, dans lequel je vais vous poser des questions, plus ou moins en relation avec l'actualité principalement. Ça peut être après en relation avec des questions de fond, peut-être plus anciennes. On peut retracer des causalités très anciennes à des phénomènes très récents. Par conséquent, dans ces cinq sujets que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui, voici le premier. Récemment, il y a eu une idée du camp démocrate aux États-Unis pour réformer la Cour suprême.
Oui.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez très bien la teneur de ce projet.
Oui.
L'idée, c'est d'agrandir le nombre.
C'est une idée qu'avait déjà eu Franklin Roosevelt et d'abord laquelle il avait reculé.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 9 juges à la Cour suprême. L'idée, apparemment, ce serait d'augmenter ce nombre jusqu'à 13. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet?
D'abord, il faut savoir que la Cour suprême aux États-Unis a eu 9 juges depuis certainement les années 1830-1840, je crois. Et c'est touché à quelque chose qui est très important dans l'ordre institutionnel américain. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif, le Congrès, et vous avez la justice. La justice, le département de la justice, d'une certaine façon, fait partie du monde exécutif, à l'exception des juges. Et le top de la Constitution américaine, c'est du département de la justice, c'est la Cour suprême. Et dans l'idée des législateurs, des pères fondateurs de la République américaine, ces trois ordres étaient égaux. C'est-à-dire, il n'y avait aucun des trois qui avait la supériorité sur eux. Aucun des deux autres. Donc ils sont égaux. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des conflits. Et quand il y a un conflit, l'idée c'était que le conflit devait être arbitré par l'électorat lors de l'élection suivante, en général, qui était la plus rapide, était toujours celle aux représentants où il y a des élections tous les 2 ans. Donc ce que disaient les législateurs américains, c'est qu'il fallait empêcher qu'un désordre se mette à l'emporter sur l'un des deux autres pour que la séparation des pouvoirs fonctionne. Ce que font les démocrates là, c'est assez simple, c'est de permettre au législatif de prendre le contrôle de la Cour suprême, donc du système de justice. Ce qui est extraordinairement inquiétant, parce que imaginons que dans 2 ans ou dans 1 an bientôt, les républicains l'emportent. À ce moment-là, s'il y a 13 juges à la Cour suprême, ils pourront en nommer 4 de plus 18 et se retrouveront en majorité. Donc c'est une histoire de fou. C'est encore une fois une tentative de prendre le pouvoir par un pouvoir contre les deux autres. Au moins en France, on n'a pas ce problème, parce que la Constitution de la Ve a été tellement mal faite par Michel Debré et De Gaulle, que l'exécutif est totalement dominant sur les deux autres. Donc on n'a pas ce problème. L'exécutif n'a pas se fatiguer. Il peut écrabouiller les deux autres. Les deux autres n'ont rien à dire. Mais les États-Unis ont été les États-Unis depuis 2 3 siècles parce qu'ils ont une constitution qui a été admirablement faite. Et je trouve qu'il faut être quasiment fou intellectuellement pour mettre en danger un ordre qui a fonctionné à la satisfaction générale depuis 3 siècles. Ça montre à la fois le degré de folie et le degré d'incompréhension de ce qu'est une démocratie, c'est-à-dire le respect de l'opinion adverse, des démocrates. Et s'il y a quelque chose qui me surprend aux États-Unis, c'est vraiment, j'ai l'impression que la gauche dans le monde entier, mais aux États-Unis en particulier, est en train de devenir folle.
C'est ça, j'ai l'impression que le camp démocrate est devenu complètement hystérique. Et vu que dernièrement Biden a du moins officiellement remporté les élections américaines et qu'il a la plupart des institutions de son côté, il lui manque uniquement la Cour suprême
Pour faire ce qu'il veut. Mais
pour faire
justement,
ce
c'est
qu'il
ce que
veut.
cherchaient à empêcher les constituants américains, c'était de dire, il faut à aucun moment qu'un parti puisse faire ce qu'il veut, parce qu'à ce moment-là, il peut supprimer la démocratie.
Ouais. Et
Et
puis
c'est ce qu'ils essayent de
ensuite.
faire.
Et puis ensuite, du coup, chaque nouvelle majorité peut arriver au pouvoir et dire, bah, nous, on va rajouter tel nombre de juges pour de nouveau avoir
La majorité.
la majorité. Et peut-être que dans 50 ans, on aura 250 juges à la Cour
À la
suprême.
Cour suprême, et ça voudrait, et surtout, ils vont essayer d'enlever toute une série de cas qui ne seront plus déterminés par la Cour suprême, mais qui vont essayer de faire traiter par les juges en dessous, sans possibilité d'appel à la Cour suprême, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il suffirait de l'envoyer chez un juge qui a été nommé par M. Obama, et à ce moment-là, bah, ça passera. Donc, c'est une tentative de capture du judiciaire par le législatif, avec l'aide de l'exécutif. Et c'est extraordinairement inquiétant, parce que c'est une tentative de nature totalitaire. Il n'y a pas le moindre doute. La gauche actuelle est en train, à l'évidence, de devenir totalitaire.
J'ai un deuxième thème qui se rapporte d'ailleurs toujours aux États-Unis, mais qui peut s'entendre d'ailleurs à une échelle plutôt occidentale, je pense. Dernièrement, une responsable de la chaîne CNN aurait été enregistrée par des républicains qui ne lui auraient pas dit elle aurait été enregistrée en train de dire que le but de la chaîne, durant les semaines précédant l'élection américaine des
Durant
présidentielles,
les 4 ans
voilà,
où
même durant
Trump
les
a été
4 ans,
élu.
oui, que l'objectif de la chaîne était tout simplement de faire tomber Trump, que c'était pas d'informer les citoyens. Qu'est-ce que ça dit sur nos médias?
Ça dit beaucoup de choses. Il y a deux choses qui sont extraordinaires dans cette histoire. D'ailleurs, la première, c'est que je crois que c'était un responsable, c'est pas une responsable, mais un responsable de la chaîne s'est fait enregistrer en disant ça, donc apparemment c'est vrai. Et n'importe quel observateur neutre savait que toutes les grandes chaînes américaines, CNN, ABC, NBS, CNBC, tout ce que vous voulez, ils étaient tous anti-Trump. Je crois qu'il y avait eu à peu près 95% de gens qui avaient voté pour Madame Clinton, les 5% qui avaient voté dans le monde des médias. Et donc les médias se sont transformés. Quand j'étais enfant, vous aviez Walter Cronkite, qui était un grand présentateur américain et qui se voulait neutre et qui présentait les nouvelles telles que lui les percevait pour que les gens puissent se faire une opinion par eux-mêmes et donner les faits. Donc la quasi-totalité de la presse américaine avait été faite sur un modèle que moi je trouvais très satisfaisant. D'abord, le journaliste exposait les faits. Et ensuite, il en tirait des conclusions. Mais d'abord, il donnait les faits aux gens qui l'écoutaient. Aujourd'hui, ils se sont tous transformés en apôtres de la vérité. Et à la place de vous donner les faits, ils commencent par la condamnation, en quelque sorte. Et ça, là encore une fois, c'est très inquiétant parce que on arrive dans un monde, j'ai souvent dit aux gens ici qui m'écoutent, que je salue d'ailleurs en passage, et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne parce qu'on est presque à 100 000 et j'oublie toujours de le dire. Donc je le redis, vous inscrivez à la chaîne, on compte sur vous. Mais donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que aux alentours de la fin du XIIe siècle, en France, il y a eu un penseur très connu qui s'appelait Abélard. Vous savez, c'est celui d'Abélard et Héloïse qui a eu quelques malheurs avec eux, et qui était un philosophe et qui a eu beaucoup d'influence. C'était le grand penseur de l'Europe à l'époque, et il disait qu'il y a une grande différence entre le péché et le crime. Le crime, c'est ce qui est prévu par la loi. Ce que disaient les Romains, c'est qu'il n'y a pas de crime s'il n'y a pas de législation interdisant ce crime. Nulla crimen sine lege. Donc il n'y a pas de crime sans la loi. Et de l'autre côté, vous avez le péché qui ressort de la morale individuelle. Et ce que disait Abélard, c'est que le rôle de l'État, de l'Église, c'était pas de condamner le péché, ça c'est du ressort individuel, mais de condamner le crime. Or, aujourd'hui, cette distinction fondamentale qui a permis la séparation de l'Église et de l'État, etc., cette distinction fondamentale est en train de tomber en brèche. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, je vais dire une bêtise, mais c'est le privilège des vieux, mettons que j'ai le droit d'être raciste. Dans la mesure où je ne fais pas de mal à personne, que ça fait de mal à personne, j'ai le droit d'être raciste. D'après l'Église catholique, c'est un péché. Mais dans la mesure où je ne fais pas de mal objectif aux autres, ça n'est pas un crime. J'ai le droit d'avoir mes opinions, de penser que. Eh bien, aujourd'hui, si on vous accuse d'être raciste, même si vous ne l'êtes pas, ce qui est mon cas, on vous dit vous êtes raciste, donc vous êtes condamnable. Donc on est en train de faire merger le crime et le péché, et ce sont les médias qui sont chargés de dire, de porter l'opprobre. Mais c'est pas le rôle des médias. On en a eu un exemple absolument parfait, sans vouloir. Par exemple, Monsieur Duhamel, apparemment, le patron de la Fondation de Sciences Po, n'était pas irréprochable dans un certain nombre de domaines.
Hein. Il paraît.
Il paraît, c'est ce que je me suis laissé dire. Bon, il paraît qu'il y avait des choses qui se passaient à Sciences Po qui n'étaient pas bien normales. Très bien.
Il paraît aussi.
Il paraît aussi. Bon, admettons. Mais tant qu'il n'a pas été dévoilé, beaucoup de gens savaient, se taisaient, alors que là, c'était un crime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le journaliste vous accuse facilement d'un péché, mais n'accuse jamais le crime de ceux avec qui ils sont d'accord. Et quand vous êtes passé devant le tribunal de l'opinion publique, vous êtes mort. Parce que, par exemple, ici, dans cette maison, c'est pour ça que je parle du racisme, ma chère fille avait dit dans une émission un peu comme celle-là, non pas dans une émission, c'était sur un Twitter, quelqu'un lui avait envoyé un Twitter en disant il y a trop de blancs dans l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est raciste? J'en sais rien, mais peut-être. Il y a trop de blancs dans l'intelligence artificielle. Et elle avait répondu, il y a trop de noirs en finale des Jeux Olympiques, ah. Du 100 mètres. Ils ont pris la phrase, il y a trop de noirs en finale des Jeux Olympiques du 100 mètres, et ils ont dit, voilà un propos parfaitement raciste. Et vous voyez comment, à partir d'une phrase détachée de son contexte, c'est ce que disait Richelieu, « Donnez-moi 5 lignes de la main d'un homme, et je peux le faire condamner à mort par n'importe quel tribunal. » Donc, accuser des gens sur des bouts de phrases, les accuser sur ce qui est un péché et non pas un crime, par exemple avoir de l'humour, aujourd'hui c'est un péché, vous n'avez plus le droit de rigoler, quoi,
C'est très difficile, oui.
Je sais pas, moi, quand dans les années 80, vous aviez eu des films comme Y a-t-il un pilote dans l'avion ou SS-117 au Brésil, où il y avait des trucs qui passeraient pas aujourd'hui, comme moi qui me faisais hurler de rire, quoi. Donc, grosso modo, on assiste à un appauvrissement extraordinaire de la pensée et du coup de la discussion entre citoyens, parce qu'il y a une série de gens qui veulent nous forcer à parler leur langue. Et j'arrive à ce que je voulais dire, c'est que chez les Grecs, celui qui contrôlait le logos, la parole, contrôlait la cité. C'est-à-dire si les autres utilisaient son langage, il avait gagné. Et on se rend bien compte que le logos français qui avait toujours dominé, rablaisien, un peu irrespectueux, enfin des grosses bêtises, qu'on se marrait bien, est en train d'être appauvri par des gens qui veulent qu'on ait une pensée pauvre, et si on sort, si on dit une connerie, tout le monde vous tombe dessus en disant... Et donc, je refuse le droit à quiconque de contrôler mon logos. La façon dont je parle m'est personnelle, et je considère que personne n'a le droit de m'empêcher de parler pour dire ce que je veux. Et pourtant, c'est cette tentative de contrôle de la pensée et de la parole auquel nous sommes soumis, c'est ce qu'avait prévu George Orwell. Donc, quelque part, il y a quelque chose de très malsain qui se passe, où des espèces de demi-éduqués que sont les journalistes essayent d'empêcher les vrais éduqués de parler. Et ça m'inquiète beaucoup.
C'est normal, oui.
Mais vous dites c'est normal, mais vous remarquez qu'il y a très peu de Français qui s'en plaignent. Ce qui me sidère, moi, dans tout ça, c'est... Où sont les Voltaire, ou qui s'occupaient de Calas, ou qui s'occupaient du... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Il faudrait que les Français commencent à... Si j'ose dire, moi je suis un vieux joueur de rugby, et je dis toujours, il y a un moment dans la vie où il faut ouvrir la boîte à claques. Vous savez, quand vous êtes sur un terrain, il y en a un qui vous fait vraiment braire, bon, vous ouvrez la boîte à claques pour lui faire comprendre que ça va bien. Mais il faudrait ouvrir la boîte à claques contre les journalistes qui nous imposent de parler d'une façon débile.
Je trouve aussi que par rapport à ça, en France, il y a un gros esprit d'acceptation. Par exemple, je connais des gens qui pensent à peu près comme moi, qui malgré tout regardent la télévision tout à fait classique, même voire achètent le journal Le Monde. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi vous financez des institutions qui vous insultent? C'est quand même formidable.
C'est, vous savez, le bourgeois. Par exemple, prenons l'art contemporain. Vous savez, il y avait un magazine en Angleterre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Spectator, qui existe depuis 1830 ou 1840, qui est l'endroit où la droite intelligente, parce qu'on a une en Angleterre de droite intelligente. On n'a pas cette chance en France, mais enfin, il y a une droite intelligence conservatrice en Angleterre qui est tout à fait remarquable. Donc, ça fait. Donc, quasiment presque 200 ans qu'ils parlent aux gens. Et ils avaient trouvé une définition de l'art contemporain que j'avais trouvé admirable. Et l'art contemporain, c'est une conspiration entre les marchands et les artistes pour mettre le bourgeois mal à l'aise. Et c'est exactement votre histoire du monde. Le type qui veut être pris au sérieux en France, il faut qu'il lise le monde. Or, ce sont tous des crétins illettrés qui n'ont pas fait vraiment d'études, qui savent rien. Et vous vous dites, mais moi j'ai cessé de lire Le Monde, ça fait un petit moment, lorsque les Pol Pot a pris le pouvoir au Cambodge, et juste avant de massacrer 3 millions de personnes. Et je savais que ça allait se passer, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et le titre du Monde, c'était Cambodge libéré, accueil en triomphe, c'est libérateur. Ben, je m'étais dit, bon, ben, à partir de maintenant, je n'irai plus jamais Le Monde et je ne l'ai plus jamais lu. Il y a quelque chose qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent, c'est lire ce que disent vos ennemis. C'est une façon très simple aussi de vous embrouiller l'esprit. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que je leur dis, je lis les articles de qualité faits par des gens de gauche ou de droite, etc. Mais je ne vais pas lire des articles de propagande écrits par des gars qui sont intellectuellement nuls. Si ça vous fait rien, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas lire la Pravda. Vous n'apprenez rien en lisant la Pravda, sauf qu'ils pensaient qu'à travers. Mais ça, je le savais dès le départ.
J'ai un troisième sujet où là, je vais essayer de voir ce que vous pensez de ça, notamment par le prisme du libéralisme que vous défendez à travers tous vos
C'est vrai que
ouvrages.
le libéralisme, c'est une doctrine juridique, c'est que tout le monde est égal devant la loi. Ben, je connais pas un gars qui est contre, hein.
Tout à fait. D'ailleurs, vous avez écrit un article récemment sur le site de l'Institut des Libertés que j'ai lu qui rappelle le pourquoi du comment du libéralisme.
Exactement. C'était la seule façon de contrôler le monstre qu'est l'État, qui est nécessaire. On a besoin d'un État, mais vous ne pouvez pas contrôler l'État en pensant que si vous vous étiez dedans, ça irait mieux. C'est une erreur, parce que si la structure de l'État est fondamentalement viciée, ben quoi que vous fassiez, vous n'arriverez à rien. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on a besoin du Moloch, pas pour maintenir l'ordre chez nous, mais une fois qu'on a donné le pouvoir de la violence légitime à un organisme, la question essentielle et unique de la science politique, c'est comment je vais contrôler ce monstre, moi, citoyen de base, avant qu'il me foute dans un camp de concentration, ce qui est sa tendance naturelle. Donc, grosso modo, c'est ça le libéralisme, c'est comment contrôler la bête, ce monstre qu'on a créé.
Voilà. Et par rapport à ça, je voudrais vous demander votre avis parce que récemment, l'Assemblée nationale a relancé le débat sur, alors, ce qu'on peut appeler ça la fin de vie volontaire, on peut appeler ça l'euthanasie aussi. Quel est votre avis là-dessus?
Vous savez, je ne sais plus qui disait sur des sujets comme l'euthanasie, le législateur ne doit approcher qu'en tremblant. C'est-à-dire que, justement, revenons à cette force légale de la violence, l'utilisation, le monopole de la violence qu'a l'État. Est-ce qu'il va donner l'ordre aux médecins, qui ont juré dans leur serment d'Hippocrate de défendre la vie, de tuer?
C'est la question.
Et est-ce que les médecins, dans ce cas-là, doivent obéir? Et est-ce que les médecins, s'ils n'obéissent pas à ce qui est une loi, doivent être punis? Ou est-ce que. Donc, je veux dire, il y a des endroits où on touche à des décisions individuelles, à la vie, à la mort, où, à mon avis, le législateur n'a rien à faire, mais vraiment rien à faire. Et moi, je peux vous donner un exemple d'un vieil ami qui souffrait, qui était grabataire, et qui avait une fille que je connaissais. Et il disait à sa fille tous les jours, mais donne-moi une pilule, tu vois, j'en peux plus. Parce qu'il était très dur pour la fille. Et la fille disait, papa, dans le tiroir de ta table de nuit, là, il y a une pilule que j'ai mise. Si tu veux, tu la prends. Mais tu ne vas pas me demander à moi de te la donner. Et bien, il ne l'a jamais prise. Il ne l'a jamais prise. Donc, vous voyez, tous ces gens qui disent « je veux la mort, je veux la mort », c'est comme la vieille dans Les Femmes de La Fontaine, si vous voulez, avec son soir, il tombe, la mort arrive en disant « si tu veux, je peux te soulager », elle dit « oh, pff, non, ça ne fait rien, je préférerais ». Donc, grosso modo, s'il y a une la décision ultime sur la liberté d'après Camus, c'était le suicide. Puisqu'on est... On a le droit de se suicider à tout moment. Si vous trouvez que ben, vraiment la vie vaut pas la peine d'être vécue, on va vous suicider. C'est vraiment la liberté ultime, le suicide. Vous enlevez cette liberté. Non. Moi, personnellement, je suis contre toute législation sur l'euthanasie parce que l'État n'a rien à y faire. C'est nous amener sur une pente extraordinairement glissante. On voit très bien où ils veulent nous amener. Le but, c'est quand même de tuer les vieux qui ne servent plus à rien. Mais qui ne servent plus à rien en termes économiques. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser qu'une grand-mère qui raconte des histoires de son enfance à sa petite-fille, quand la petite-fille a 6 ou 7 ans, va pas avoir une influence profonde sur cet enfant? Et donc, si la grand-mère est un peu affaiblie, et qu'elle a le malheur d'avoir des biens, ben, les enfants ont peut-être décidé de le liquider parce que, dans le fond, on met du temps à toucher l'héritage. Ce qui est un peu gênant. Donc, quelque part, non, la vie est un endroit où la politique s'arrête. La vie et la mort, la décision de vie et de mort. Non, il ne peut pas y avoir d'intrusion du politique là-dedans.
Mais quelque part, est-ce que ça ne peut pas être, dans une perspective libérale, justement, une libre...
Mais vous l'avez toujours?
Oui, mais par exemple, pour des gens qui disent écoutez, si jamais je suis dans un état végétatif qui fait que je ne peux pas décider de faire quoi que ce soit, je veux être euthanasié et qu'ensuite ça arrive.
C'est une autre question. La question que vous posez, je l'ai connue dans la famille de la femme de mon fils. Il y a une de ses sœurs qui était donc gravement atteinte d'un cancer. Et elle était sous assistance médicale, vous savez, des poumons, des trucs, machin, bref. Elle ne pouvait plus prendre la décision, mais elle était complètement inconsciente. Et c'est la femme de mon fils qui a dû prendre la décision d'enlever la prise. Parce que maintenir quelqu'un en artificiellement en vie, ça n'est pas la même chose que le tuer. Si vous enlevez la prise, vous ne le tuez pas, parce que dans l'état normal, il ne survivrait pas. Et donc, encore une fois, il ne faut pas oublier que, par exemple, sans vouloir introduire des domaines de coûts, mais dans la sécurité sociale, je crois que la moitié des dépenses de santé pour un individu, c'est dans la dernière année et c'est dans les 3 derniers mois. Est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une réflexion sur cette espèce d'acharnement thérapeutique en fin de vie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les mettre dans un couvent de dominicains pour réfléchir à leur fin dernière? Mais ce que je veux dire, c'est pas obligé de penser que... l'acharnement thérapeutique, ça peut amener en effet à quelqu'un à enlevant la prise. Mais c'est pas la même chose que l'euthanasie, enfin je pense pas. Je suis contre l'acharnement thérapeutique et contre l'euthanasie.
Ouais, c'est-à-dire, dans le cas où on enlève la prise, c'est plus on laisse mourir plutôt qu'on tue.
Voilà, on laisse mourir.
D'accord.
On laisse mourir. On laisse mourir naturellement. Quelqu'un qui serait mort de toute façon.
Alors, j'avais un autre sujet, un petit peu léger, même si ça commence à dater de quelques jours maintenant. On a eu une affaire.
On a le droit de rigoler, hein.
Oui, on a le droit de rigoler.
On peut
se détendre deux secondes.
Pour pas déconner,
surtout après l'euthanasie.
Après l'euthanasie, qui est un sujet assez peu, qui prête assez peu à la rigolade, quoi. Ouais. Faut dire ce qui est.
Donc il y a quelques jours, il y a eu une affaire, d'ailleurs qui a eu énormément de retentissements sur les réseaux sociaux, l'affaire Chalençon. Alors ce brave Pierre-Jean Chalençon, qui avait donc un restaurant clandestin qui s'appelle le Palais Vivienne, a été mis en garde à vue avec, avec son chef, restaurateur, à la suite donc d'une affaire. L'affaire, c'était tout simplement, il y a eu des dîners clandestins au palais Vivienne. Et le clou de l'affaire, et ce pourquoi ça a été si important, c'est parce que il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont suspectés d'y avoir été. Alors même que justement en ce moment, on est en période de restriction sanitaire, on ne doit pas sortir de chez soi après 19h, à plus de 10 km de chez soi, même dans la journée, on ne peut pas
Alors, ils habitaient tous
dîner.
probablement autour de, dans le 7e ou dans le 8e, voyez. Donc,
C'est une
ils
possibilité,
étaient à
ouais.
moins de 10 kilomètres, ça,
Oui,
on va pas leur en vouloir, ça.
ça je pense
Ils
pas.
avaient sans doute pu y aller à pied.
Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette affaire globalement?
C'est quelque chose. Vous savez, c'est un jour, mon père m'a dit, bon, je commençais à avoir des enfants, il m'a dit, tu sais, c'est pas difficile d'élever des enfants, il faut simplement leur montrer l'exemple. C'est-à-dire ce que tu fais, et si tu fais bien, ben, ils suivront et ils feront bien. Or là, ce à quoi on arrive en France, c'est à une élite qui fait exactement le contraire, qui dit ce qu'il faut pas faire et qui le fait elle-même, quoi. On l'a vu, je ne sais pas combien de fois, avec. Et ça, normalement, dans un pays un peu plus dur que nous le sommes aujourd'hui, par exemple en Chine, ils se réfugient. Les membres du parti qui se font choper dans un truc comme ça, ils sont liquidés tout de suite, quoi, pour eux. C'est ce que disent les Chinois, pour que le peuple ait confiance, il faut que de temps en temps, on tue certains singes pour faire peur aux lions, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils sont pas des tendres, les Chinois, vous savez. Ils ont pas survécu 5000 ans en étant la crème de l'humanité. C'est des grosses brutes. Mais je veux dire par là, c'est que les poissons pourrissent par la tête. Et notre tête aujourd'hui est corrompue comme rarement elle l'a été dans l'histoire. C'est-à-dire que. Et donc, ils n'ont aucune légitimité à nous donner des ordres. Quand j'étais jeune, si vous voulez, si un. Mettons que je fasse mon service militaire, si un bijard qui avait crapahuté de l'Indochine à l'Algérie, ou etc., me donnait un ordre, tout le monde le suivait gaiement parce que d'abord, il valait mieux. Et puis ensuite. Il avait la légitimité pour donner cet ordre. Maintenant, Monsieur Macron, qui me donne un ordre, je me dis, mais de quel droit me donne-t-il un ordre? Il n'a pas la stature morale pour me donner un ordre. Il remplit pas le costume du président de la République. Donc on est dans un vrai et énorme problème de légitimité. Et la question qui m'intéresse beaucoup, c'est que. Et ça, je n'ai aucune information, je ne peux pas dire si c'est vrai, mais il y a des rumeurs qui courent Paris, parce que bien entendu, ce genre de truc émane des rumeurs. Est-ce que le ministre de la Justice actuel a été à ces dîners ou pas?
Il paraîtrait, c'est pas officiel, c'est
Mais
pas
comment c'est pas
vérifié,
officiel? Il y a des
mais
photos qui ont été prises. Pourquoi
il y a des photos,
ces
ça oui.
photos ne sortent-elles pas? Pourquoi sortent-elles pour des personnages sans aucun intérêt? Mais pourquoi, s'il y a un très gros poisson qui était là-dedans? Dans ce cas-là, le ministre de la Justice, un, devrait donner sa démission, et deux, devrait être rayé de l'ordre des avocats.
Et
C'est la
d'ailleurs,
moindre des choses.
on peut rebondir aussi sur.
Je ne dis pas qu'il y a été, je dis qu'il y a des rumeurs, hein, c'est
Oui,
tout.
oui. On peut rebondir d'ailleurs aussi sur le rôle des journalistes, parce que certains journalistes doivent avoir des informations là-dessus, et visiblement, elles ne sont pas divulguées.
Et donc, une fois de plus, on protège ceux qui vous payent. Moi, c'est. Vous savez, c'est ce que me disait un journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle André Bercoff à Sud Radio. Il dit, il y a deux sortes de journalistes aujourd'hui, les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot. Mais vous ne trouvez pas que c'est effrayant? C'est effrayant. Aujourd'hui, on a beaucoup de journalistes qui ont des boulots, mais
Peut-être trop même.
peut-être trop, et en tout cas pas les bons, quoi. On les a rarement entendus dire non. C'est donc vraiment, c'est une. Quand une classe dirigeante devient immorale, non éthique, la révolution n'est pas loin. Il va falloir les pendre.
C'est une bonne conclusion, je pense. dernier sujet. Aujourd'hui, on est le 15 avril. Il y a 2 ans, jour pour jour, brûlait Notre-Dame. Et alors, la première version du pourquoi, du comment de l'incendie, c'était qu'il y avait une cigarette, apparemment, qui s'était mal éteinte.
Depuis, sur des poutres de 700 ans.
Oui, il paraîtrait. Depuis, on n'a pas eu de résultats concrets de quelque enquête.
Vous êtes surpris, ça ?
Non, pas vraiment.
Surtout qu'une semaine avant, ils essayaient de brûler Saint-Sulpice, et puis il y avait une cathédrale qui avait brûlé ailleurs. Donc, le coup de faire brûler des églises, en général, on sait d'où ça vient, non ?
Bah, en tout cas, officiellement, c'est pas dit. Ou alors, vraiment, c'est une cigarette, auquel cas, ça me surprendrait quand même. Mais ce qui est certain, c'est que ça laisse quand même libre cours à énormément de théories que les gens peuvent se faire eux-mêmes.
Ben c'est toujours pareil quand les gens n'ont plus confiance. Vous savez, c'était Chesterton qui disait « Quand les gens ne croient plus en Dieu, c'est pas qu'ils croient plus en rien, c'est qu'ils croient en n'importe quoi. » Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Comme on ne croit plus dans les médias, on ne croit plus dans le pouvoir politique, comme arbitre du bien commun, etc., les gens se mettent à croire n'importe quoi. Vous avez un nombre de cinglés profonds sur le net qui ont des... j'ai écrit sur le net, j'ai eu des émissions sur le net, et vous n'imaginez pas le nombre de trucs que je reçois où on m'explique que... Il y a des satanistes, il y a des... Bref, on me dit des trucs absolument affolés. La vraie cause de tous nos malheurs, c'est le diable, ce dont je suis parfaitement convaincu, d'ailleurs. Le diable est en effet présent, existant, et il cherche à nous faire du mal, ça va de soi, mais il n'y a pas un stand où il est marqué diable, rentre ici. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'à chaque fois, le diable... Pour moi, cette espèce de... C'est ce que disait Jean-Paul de... Cette espèce de relativisme moral permet à tous les vrais criminels d'échapper. Parce que les journalistes font plus leur boulot, les juges ne font plus leur boulot. Les pauvres policiers essaient de continuer à faire leur boulot, mais c'est pas de la tarte. Et à partir du moment où... je sais pas si je l'ai déjà dit ici ou pas, mais... Vous savez, s'il n'y a pas de sanctions au crime, ben c'est comme d'essayer de prêcher la foi chrétienne sans en faire. Ça se vend mal, quoi. Il faut... Donc, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a toute une série de gens qui se sont affranchis du crime... en contrôlant le ministère de la justice, les juges, ce qui leur permet de commettre des crimes impunément. Mais ça reste des crimes, et personne n'en parle. Et la société en pourrit.
C'est vrai.
Donc, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, c'est toujours la même chose.
Bon, bah, je crois qu'on a terminé avec cette émission, pour la première. Et bah, j'imagine qu'on vous dit à la semaine prochaine.
Voilà, vous m'interrogez comme ça, gentiment. Et on pourrait appeler ça place aux vieux. Vous savez, il n'y en a qu'un, c'est moi. Parce que vous avez tellement de jeunes couillons qui parlent que peut-être laisser un vieux parler de temps en temps, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
De temps en temps, ouais, ça peut être pas mal.
Il y a des tas de gens qui m'écrivent en me disant « Ah, vous me rappelez mon grand-père !» Il était très bien, mon grand-père. Il n'y a pas de plus beau compliment si je le rappelle leur grand-père. C'est que c'était un Français comme convenable. Enfin, c'est ce que j'essaye d'être. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.